Le journal de Vincent Jacquin.
Bonsoir, les syndicats romands ne veulent pas d'une école obligatoire rognée d'une année au profit de la maturité. Ils s'en inquiètent aujourd'hui alors que la formation dans les gymnases et lycées de Suisse est appelée à durer 4 ans. Si l'école est loin derrière vous mais que vous vous posez des questions sur la suite de votre vie professionnelle, vous pouvez peut-être vous tourner vers Via Mia. Ce programme de conseil pour les plus de 40 ans existe depuis un an dans le Jura et les premiers résultats sont encourageants. Marco Odermatt s'est adjugé le Super G de Wengen cet après-midi. Le skieur nidwaldien enregistre ainsi son 6e succès de Coupe du Monde cette saison. La soirée sera claire et qui dit ciel dégagé, dit température fraîche demain matin jusqu'à moins 5 degrés en plaine, moins 2 dans les franches montagnes. Le passage à une maturité gymnasiale en 4 ans au lieu de 3 ne doit pas se faire aux dépens de la scolarité obligatoire. C'est l'avis transmis aujourd'hui par des syndicats et des associations. Ensemble, ils lancent un appel pour que les cantons romands adoptent le système 11 plus 4, autrement dit 11 années d'école obligatoire et 4 années complètes de formation gymnasiale. Le Jura est directement concerné par cette volonté d'uniformisation, puisque le lycée cantonal délivre la maturité en 3 ans. Les précisions de Léonie Adrover.
Uniformisé, oui, mais en nivelant par le haut. C'est l'appel lancé aujourd'hui aux cantons romands concernés, à savoir le Jura, Berne francophone, Neuchâtel et Vaud. Syndicats et associations rejettent le modèle dit 10 plus 4, appliqué dans certains cantons alémaniques, où la première des 4 années de maturité correspond en réalité à la 11e Armos, aménagée en programme pré-gymnasial. Les syndicats et associations ne veulent pas que les élèves doivent choisir leur orientation un an plus tôt, que ceux qui se destinent à la maturité doivent apprendre sur 2 ans au lieu de 3 la matière de l'école secondaire et que les lycées accueillent des élèves plus jeunes et moins formés. L'appel souligne encore que les autres cantons romands prévoient un total de 15 ans jusqu'à la maturité et qu'opter pour un modèle en 14 ans ne serait pas conforme aux objectifs d'harmonisation.
Le canton du Jura, lui, par son ministre de la Formation et par le Parlement, s'oppose à l'instauration d'une maturité en 4 ans qui coûterait plus cher. Martial Courtet rappelle que la qualité de la maturité délivrée à Porrentruy est reconnue par les hautes écoles. Il espère d'ailleurs encore faire entendre la voix jurassienne sur la scène nationale, Léonie Adrover.
Cette décision de proposer partout en Suisse une maturité en 4 ans avait été prise à la majorité de la conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique. Mais des auditions auprès du secrétariat d'État à la formation doivent encore avoir lieu dès ce printemps. Elles permettront au passage de continuer à défendre la matu théâtre, spécificité jurassienne remise en question par la réforme. En attendant, le travail consiste surtout pour le Jura à se coordonner avec Berne et Neuchâtel pour aboutir à un modèle unique. Il faut rester cohérent selon Martial Courtet, dans la mesure où les élèves des Franches Montagnes passent souvent leur maturité à La Chaux-de-Fonds et où les futurs prévôtois jurassiens garderont la possibilité de fréquenter le gymnase de Bienne. Le ministre indique que les arguments en faveur de la variante 11 plus 4 sont souvent pertinents. Cependant, concernant la formule, toutes les options restent actuellement ouvertes.
Et les premiers diplômés de la maturité en 4 ans devraient terminer le lycée en 2033. Le lycée est loin derrière elle, mais les personnes de plus de 40 ans peuvent aussi avoir des questions sur leur avenir professionnel. Eh bien, elles ont l'occasion de réaliser un bilan et de bénéficier de conseils via le programme Via Mia qui fonctionne depuis un an dans le Jura. Cette mesure vise à prévenir le chômage et à évaluer son attractivité sur le marché de l'emploi. La prestation a été lancée sous forme de projet pilote l'an dernier dans le Jura et est désormais étendue à tout le pays. Via Mia s'adresse aux personnes qui s'interrogent sur la suite à donner à leur vie professionnelle. Une vingtaine de dossiers ont été traités en un an dans le Jura et l'accueil est bon et les premiers résultats positifs, comme l'indique Andrea Sefli, le chef du service cantonal d'orientation scolaire et professionnelle.
On peut considérer les éléments au niveau cantonal, mais aussi au niveau des cantons pilotes. Je crois qu'il y a eu un accueil très positif avec des effets très positifs au niveau de tous les cantons pilotes. C'est-à-dire que manifestement, cette offre en tant que porte d'entrée dans l'orientation et spécifiquement par rapport à ce public 40 ans et plus, quand on est bien installé peut-être dans le marché de l'emploi, ou bien qu'après une période d'absence pour des raisons familiales et autres, on veut retrouver une place dans le marché de l'emploi au niveau du travail, je crois que ça a répondu à un réel besoin et l'offre telle qu'elle a été définie, je pense qu'elle répond à un réel besoin. En tout cas, la grande majorité des personnes qui ont profité ou qui ont eu la possibilité de participer au programme ont donné des réponses extrêmement positives par rapport aux effets.
Et à noter que Via Mia ne concerne pas les bénéficiaires de prestations comme l'AI ou l'assurance chômage. Les médias doivent continuer de contrôler l'État et non l'inverse. C'est avec cette devise qu'un large comité de parlementaires fédéraux rejette le paquet d'aide financière aux médias, un objet soumis au peuple le 13 février. Il s'agit principalement d'élus ou d'anciens élus de l'UDC et du PLR, avec quelques centristes alémaniques et tessinois. Leurs valeurs libérales sont heurtées par l'aide directe qui serait versée à certains médias, en plus du soutien à la distribution des journaux. Ils estiment que l'indépendance des journalistes serait altérée. On écoute la conseillère nationale PLR vaudoise, Jacqueline de Quattro.
Ce qui me dérange, c'est qu'on accorde pour la première fois une aide directe à certains médias, mais pas à tous. Il y a une distorsion de concurrence parce que, par exemple, les médias en ligne ont droit à une aide directe, ce qui va évidemment encourager un certain nombre de nouveaux médias à surgir. J'ai rien contre, mais il faut qu'ils puissent tenir la route. Or, on voit bien que si on est subventionné jusqu'à 60% du chiffre d'affaires, il y a un risque sérieux que ceux qui arrivent sur le marché n'arriveront jamais à tenir eux-mêmes. Et pour les médias additionnel, c'est uniquement pour les abonnements qu'on reçoit de l'aide. Et là, ça me dérange parce que les jeunes, souvent, n'achètent pas d'abonnement. Je préférerais qu'on vienne aider le consommateur plutôt que le producteur. Par exemple, pour des bons pour les jeunes, comme le canton de Vaud l'a fait, avec une sorte de kiosque virtuel à des tarifs très, très préférentiels. Ça permet aussi aux éditeurs de fidéliser un nouveau public, de montrer qu'ils ont des contenus de qualité bien supérieurs à ce qu'on peut trouver, par exemple, gratuitement sur les réseaux sociaux.
L'imposition minimale de 15% pour les grandes entreprises devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2024. Le Conseil fédéral a décidé d'une feuille de route aujourd'hui. Les multinationales, dont le chiffre d'affaires dépasse les 785 millions de francs, devront à l'avenir être soumises à cette norme selon la nouvelle règle convenue par l'OCDE et le G20. Verdict historique en Allemagne, un ancien colonel des services de renseignement syriens a été condamné aujourd'hui à la prison à vie. Cette sanction a été rendue par la justice allemande pour crimes contre l'humanité, la torture notamment. Il s'agit du premier procès au monde lié aux exactions attribuées au régime de Bachar al-Assad.
RFJ, il est 18h08.
Sport. Le petit prince du ski suisse a encore frappé. Marco Odermatt a remporté cet après-midi le Super G de Wengen en Coupe du Monde de ski alpin. Première victoire au Laborhorn sur une piste qu'il découvrait. Le Nidwaldien a terminé avec 23 centièmes d'avance sur le Norvégien Alexander Amodkilde. L'Autrichien Matthias Mayer complète le podium. Le récit de cette première journée à Wengen avec notre envoyé spécial Hugo da Custodia.
De l'admiration, oui. Une surprise, non. C'est en substance ce qu'a dit Beat Feutz, le roi de Wengen, quand on lui a demandé de se prononcer sur la performance de Marco Odermatt. Certes, le Nidwaldien n'avait jamais descendu le Lauberhorn en compétition, mais il avait déjà obtenu de très bons résultats cette saison en Super G. Et comme l'ont révélé plusieurs coureurs, un Super G à Wengen, c'était de toute manière une nouveauté pour l'ensemble des skieurs. Dans ces conditions, le leader du général de la Coupe du Monde a simplement eu besoin de laisser parler son talent. Parti avec le dossard numéro 7, Marco Odermatt collait près d'une seconde à l'Italien Dominique Paris qui s'était élancé quelques minutes avant lui. Le ton était donné. Par la suite, seuls le Norvégien Alexander Kilde et l'Autrichien Matthias Mayer ont été capables de chatouiller le meilleur temps du Suisse sans parvenir à le détrôner. Voilà les courses du Lauberhorn bien lancées pour l'équipe de Suisse. De bon augure avant le riche programme qui attend les coureurs avec les deux descentes demain et samedi, puis le slalom dimanche.
Vainqueur du géant d'Adelboden le week-end dernier, le Nidwaldien a donc réussi en quelques jours plus tard à remporter un Super G. Et malgré une piste et des conditions bien différentes, rien n'a semblé perturber Marco Odermatt.
Oui, c'était une course très différente, aussi avec les émotions et avec la pression, c'était complètement différent. Et aussi pour ce qui est Adelboden, c'était une très 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 difficile et dure. Et ici, tout à fait. Et avoir beaucoup de sons et ce qui est très calme et c'est différent, mais les deux marchent. C'est magnifique, et je ne sais pas, c'est un rêve.
Dans le clan suisse, le grison Stefan Rogentin s'est classé 11e, 14e place pour Nils Hintermann et 15e rang pour Loïc Meyer. Demain, ce sera la première descente du week-end sur un parcours raccourci. La vraie épreuve reine du Lauberhorn est prévue samedi. Un grand nom du ski suisse va ranger ses lattes. Carlo Janka mettra fin à sa carrière après la deuxième descente de Wengen samedi. Il l'a annoncé aujourd'hui. Le grison de 35 ans fait face à des ennuis de santé depuis plusieurs années. Il a fêté ses plus beaux succès tôt dans une carrière qui avait commencé en Coupe du Monde en décembre 2005 à Kranjska Gora. Recours sur le parcours de Carlo Janka avec vous, Alexandre Rosset.
Carlo Janka est le seul Suisse avec Pirmin Zurbriggen à avoir remporté à la fois un titre olympique, un titre mondial et le gros globe de cristal. Le grison a décroché l'or du géant dès ses premiers mondiaux à Val d'Isère en 2009 alors qu'il n'avait que 22 ans. Il avait également remporté le bronze en descente dans la station française. Une année plus tard, il devient champion olympique dans cette discipline lors des joutes de Vancouver. En mars 2010, il écrit une page d'histoire en devenant le premier Suisse à s'adjuger le classement général de la Coupe du Monde depuis 1992 et Paul Akola. Surnommé Iceman, Carlo Janka s'est fait plus discret depuis, notamment en raison de problèmes de dos. Son palmarès compte 11 victoires au plus haut niveau pour 28 podiums.
Après Sochi et Pyeongchang, Sarah Forster va visiter Pékin. La hockeyeuse jurassienne est dans la liste des 23 joueuses retenues par Suisse Olympique pour les JO de Pékin le mois prochain. À 28 ans, la défenseure de l'AEK Stockholm va donc vivre sa troisième Olympiade avec l'équipe de Suisse féminine. Une sélection qui n'a rien d'une surprise, mais qui arrive dans un début d'année assez agité pour la jurassienne. Sarah Forster nous a confié sa fierté après l'annonce de la liste.
C'est un honneur et une fierté de dire que je participerai à mes troisièmes Jeux Olympiques. Après, personnellement, c'est aussi une récompense d'avoir fait le choix de continuer à évoluer en Suède ces quatre dernières saisons pour rester compétitive. C'est-à-dire que depuis le début d'année, pour moi, tout s'enchaîne très vite, dans le sens qu'il y a eu 10 cas positifs dans mon équipe en Suède. Et en milieu de semaine dernière, j'ai eu un téléphone avec la team manager de l'équipe nationale, donc de la Fédération Suisse, qui regardait pour rapatrier les joueuses qui n'étaient pas en isolement ou positives, que ce soit en Suède, au Canada ou aux États-Unis, car c'est dans les trois pays que j'ai cités qu'il y a des joueuses suisses qui évoluent là-bas. Raison pour laquelle je suis en Suisse depuis maintenant samedi dernier. Et puis parallèle à ça, je fais des tests antigènes ou PCR tous les deux jours. Donc c'est vrai que c'est assez rock'n'roll.
Sarah Forster qui débutera le camp de préparation avec l'équipe de Suisse le 22 janvier, décollage pour Pékin prévu le 26.